Et 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura au micro. Dans quelques instants, le magazine économique avec Camille Gros-Didier en rediffusion. Mais pour l'instant, les nouvelles du jour. En République centrafricaine, on vient de l'apprendre, la mort d'une journaliste française, Camille Lepage, une photojournaliste indépendante de 26 ans, a été assassinée en Centrafrique, selon un communiqué de l'Élysée repris par les agences de presse. Sa dépouille a été trouvée lors d'une patrouille de la force Sangaris, l'armée française, donc, à l'occasion d'un contrôle effectué sur un véhicule conduit par des éléments anti-Balaka dans la région de Boire, précise la présidence de la République française. Toujours en République centrafricaine, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, exhorte les humanitaires à poursuivre leurs actions dans le pays. Elle s'est entretenue ce matin avec une forte délégation d'agents humanitaires au siège de la présidence à Bangui. Par ailleurs, trois enquêteurs de la CPI ont bouclé hier une mission d'une semaine dans la capitale centrafricaine. Le point avec Timothée Donangmaï.
La présidente de la transition a reconnu le rôle important joué par les organisations nationales ou internationales pour soutenir les populations en détresse. Elle les a donc encouragées à poursuivre leurs actions là où les besoins se font sentir. De leur côté, les humanitaires réclament plus de sécurité dans des zones contrôlées par des hommes armés. Par ailleurs, les experts de la Cour pénale internationale dépêchés à Bangui pour un examen préliminaire sur les exactions commises dans le pays ont bouclé une première mission d'une semaine. Pascal Turlan est conseiller en coopération judiciaire au bureau du procureur de la CPI.
Nous sommes là dans le cadre de l'examen préliminaire qui a été ouvert le 7 février dernier par Madame Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, et qui vise à déterminer si tous les éléments sont remplis ou non pour que la Cour ouvre une enquête sur la situation des crimes récents qui auraient été commis en Centrafrique environ depuis la mi-2012. Ça veut dire que nous n'avons pas encore décidé de l'ouverture d'une enquête sur ces crimes récents. Nous devons évaluer un certain nombre de critères objectifs qui doivent nous mener à prendre une telle décision.
Notons que la mission conduite par le Sénégalais Amadiba était composé de 3 personnes.
Pas de répit dans la traque de Boko Haram pour secourir les lycéennes enlevées dans le nord du Nigeria. Ces efforts bénéficient de l'appui de plusieurs pays, dont les États-Unis. Selon l'AFP, le commandant des forces armées américaines en Afrique, le général David Rodriguez, est arrivé ce mardi à Abuja pour s'entretenir avec les autorités nigérianes. Les experts occidentaux venus appuyer les autorités nigérianes sont à pied d'œuvre pour aider à localiser les captives et leurs ravisseurs. Le procès d'Oscar Pistorius se poursuit en Afrique du Sud. Le procureur exige que le coureur paralympique soit soumis à une évaluation psychiatrique. La requête fait suite à un témoignage de la défense affirmant qu'Oscar Pistorius est affecté par des troubles d'anxiété généralisés, une maladie chronique qui provoque la peur et l'inquiétude. Rappelons que Pistorius est poursuivi pour le meurtre de sa petite amie. Le procureur l'accuse d'avoir délibérément tiré sur Riva Steenkamp. La défense prétend au contraire qu'il pensait tirer sur un intrus.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a été condamné à 6 ans de prison pour avoir accepté des pots de vin pendant qu'il était maire de Jérusalem. En Irak, une vague d'attentats a fait au moins 25 morts et 75 blessés. Dans les principaux quartiers chiites de la capitale Bagdad, on compte au moins 8 explosions à Bagdad. Le pays a connu ces derniers temps les pires actes de violence depuis 2008, selon les Nations Unies. De janvier à aujourd'hui, au moins 3500 civils et militaires irakiens ont péri dans des attentats. Le bilan pour toute l'année 2013 était de 7800. Et puis, visite en Ukraine du ministre allemand des Affaires étrangères. L'objectif est de faciliter le lancement d'un dialogue entre le gouvernement et les séparatistes pro-russes de l'Est. Frank-Walter Steinmeier arrive à Kiev avec un message de soutien au dialogue national dans le cadre d'un plan élaboré par l'OSCE l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Sa visite intervient aussi deux jours après la déclaration d'indépendance de deux régions de l'Est ukrainien, Donetsk et Lugansk. Selon les séparatistes, au moins 90% des habitants de ces deux régions ont voté dimanche en faveur de la sécession. Le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe dans la guerre en Syrie, Lakhdar Brahimi, a démissionné. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a accepté cette démission qui sera effective à partir du 31 mai. L'ancien ministre des Affaires étrangères algérien travaille depuis près de 2 ans à la recherche d'une solution diplomatique à 3 années de guerre civile en Syrie. Et puis un incendie dans une mine de charbon dans l'ouest de la Turquie a tué au moins 4 mineurs et piégé plus de 200 selon certains responsables. L'incendie a été causé par une explosion suite à une panne électrique. Un rapport antérieur faisant état de 20 morts a été rétracté. Et puis...
Washington, la voix de l'Amérique. Nous vous proposons maintenant un programme en rediffusion.
Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Selon la CNUSED, le chômage chez les jeunes peut être réduit en les aidant à lancer des entreprises.
Tous les années, il y a 121 millions de jeunes qui donc arrivent à la 16e année. Et dans cette tranche d'âge, il y a presque 90% de ces jeunes qui chercheront un emploi, surtout dans les pays émergents.
Madame Fiorina Muccione, administratrice chargée du service du développement des entreprises à la CNUSED, nous en dira davantage. La cherté de la vie et le problème de l'emploi préoccupent les Ivoiriens.
Se nourrir convenablement à Mouinkou à Abidjan n'est pas chose aisée. Les marchés sont suffisamment approvisionnés, mais les prix pratiqués ont vite transformé le panier de la ménagère en sachet.
On suivra un reportage de Germaine Dry. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance robuste en Afrique subsaharienne. Michel Joseph.
À l'occasion de la présentation de l'édition 2014 des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, Antoinette Saillé, directrice du département Afrique du FMI, a estimé que la croissance vigoureuse que la région subsaharienne a connue ces dernières années semble devoir se poursuivre. Selon le FMI, elle va passer de 4,9% en 2013 à 5,5% en 2014 en s'appuyant sur des niveaux élevés d'investissement dans les infrastructures et les activités minières. En ce qui concerne les pays à faible revenu de la région, le taux de croissance sera encore plus élevé, aux environs de 6,9% en 2014. À noter néanmoins, a poursuivi Mme Saillé, que certains des facteurs favorables qui avaient soutenu jusqu'ici la croissance économique de la région commencent à faiblir. Notamment, la demande mondiale baisse, de même que la croissance de certains grands pays émergents, ce qui fait baisser les prix des produits de base, principaux produits à l'exportation de l'Afrique. Par ailleurs, les coûts de financement ont augmenté pour de nombreux pays. Si ces tendances devaient se confirmer, il est probable qu'elles auraient pour effet de freiner la croissance économique dans un grand nombre de pays de la région, conclut le FMI.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Gros dédié avec vous pour le magazine de l'économie. Parmi les autres défis des économies africaines, eh bien, le chômage des jeunes. Et justement, à l'occasion de la 6e session de la Commission de l'investissement des entreprises et du développement, la CNUSED se penche sur cette problématique et sur les moyens de lutter contre ce fléau mondial. Selon les agences des Nations Unies, on chiffre à 75 millions environ le nombre de jeunes chômeurs à travers le monde. Forcés de renoncer à intégrer une entreprise, ils se tournent vers le secteur informel et cherchent alors à créer la leur. Il est urgent, fait valoir la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, de les appuyer ainsi que les gouvernements dans cet effort pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On écoute Madame Fiorina Muccione, administratrice chargée du service du développement des entreprises à la CNUSED.
Et en plus, selon les données donc de l'UNICEF, tous les années, il y a 121 millions de jeunes qui donc arrivent à la 16e année. Et dans cette tranche d'âge, il y a presque 90% de ces jeunes qui chercheront l'emploi, surtout dans les pays émergents. Donc c'est un réel défi pour les gouvernements, surtout dans les pays émergents, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi pour les jeunes.
La CNUSED note l'importance d'aider ces jeunes lorsqu'ils sont forcés à se détourner du marché formel et décident de lancer leur propre petit business, leur propre entreprise. Ce secteur est vraiment porteur d'espoir pour ces jeunes.
En voyant l'opportunité d'avoir cette jeunesse dans le monde, c'est un défi, mais en même temps, c'est une opportunité. Si nous pouvons donc mettre de l'espoir et transformer ces jeunes plutôt que dans des chercheurs d'emploi, dans une force de création d'emploi, nous avons relevé le défi. C'est pour ça que la CNUSED, en coopération avec d'autres programmes des Nations Unies et d'autres agences, nous nous engageons pour cet effort d'introduire l'entrepreneuriat pour les jeunes et de les préparer à relever ce défi. Donc, il y a en fait un réseau des Nations Unies qui a été créé déjà dans l'année 2010, qui s'appelle le YANI. Et vous pouvez trouver plus ample information sur l'Internet pour pouvoir gérer le défi d'introduire l'entrepreneuriat auprès des jeunes.
Comment est-ce qu'on peut donc encourager les gouvernements à faciliter le business?
Donc, il y a beaucoup d'efforts en général des politiques et la CNUSED prône une simplification pour toutes les entreprises, des régulations surtout pour le démarrage de l'entreprise, ainsi que toutes les procédures pour l'établissement et aussi la fermeture qui fait partie du cycle de vie d'une entreprise. Donc, nous ne prenons pas un régime spécial pour les jeunes, mais nous affirmons qu'il faut faciliter et davantage communiquer avec les jeunes en utilisant les moyens de communication que les jeunes dont les jeunes s'approprient, notamment les médias sociaux, pour pouvoir fournir les informations nécessaires à ce qui est le processus de commencer une entreprise, de leur faciliter le financement de leurs idées, d'approcher de manière plus simple les jeunes auprès des bailleurs de fonds qui peuvent être des investisseurs ou les banques, d'avoir en fait des systèmes privilégiés de facilitation au crédit pour les jeunes qui souvent n'ont pas de collatéraux. Donc il faut trouver d'autres mécanismes et aussi d'apporter les financements à proximité des jeunes et donc d'utiliser pas seulement le système bancaire mais d'autres canaux qui soient plus de proximité. En fait, un bureau de poste, ça peut être un supermarché qui peut fournir le véhicule de système de crédit ou de microcrédit pour les jeunes. Et pour ce qui est la réglementation vraiment de comment formaliser l'entreprise, nous ne prévisions pas de créer un régime spécial, mais plutôt d'augmenter le canal d'information, d'augmenter le suivi des jeunes et de vraiment simplifier les règles pour tout le monde pour qu'on puisse avoir un système transparent et un système simple et efficace de démarrer une entreprise.
Madame Fiorina Muccione, administratrice chargée du service du développement des entreprises à la CNUSED, elle était jointe à Genève. Washington, la Voix d'Amérique, Camille Grodidier qui vous accompagne pour cette édition du magazine de l'économie, un magazine hebdomadaire de la Voix de l'Amérique. Côte d'Ivoire, la cherté de la vie et le problème de l'emploi préoccupent les populations, alors que le gouvernement redouble d'efforts pour créer, comme promis, quelques 2,2 millions d'emplois d'ici à 2015. Notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri, revient sur les difficultés économiques que vivent les Abidjanais.
Se nourrir convenablement à Moïnkou à Abidjan n'est pas chose aisée. Les marchés sont suffisamment approvisionnés, mais les prix pratiqués ont vite transformé le panier de la ménagère en sachet. Kwame Kwaku Stéphane.
La vie est chère. Dans un pays, pour que les gens sentent le goût de la vie, il faut que le riz, l'huile, les condiments qu'on mange là soient moins chers. Que la maison soit moins chère. Comme ça, au moins, le salarié il réussit à s'épanouir. Et là, les gens mangent à leur faim.
Les résultats de l'enquête emploi réalisée en 2012 relève un taux de chômage estimé à 9% dans le pays, quand ce même rapport fait ressortir 12% chez les jeunes. Kwame Ndri Augustin déplore la situation dans son secteur.
En Côte d'Ivoire, on constate qu'il y a plusieurs diplômés qui traînent encore. Chez nous, à la marine, plus de 300 qui sont diplômés qui traînent encore. Le niveau d'éducation est un peu baissé. Voilà, tout ça là. Et aussi, avec la crise, beaucoup d'entreprises ont fermé.
Pour l'emploi, le ministre chargé de ce département affirme que des structures sont mises en place pour baisser le taux de chômage en Côte d'Ivoire, de Somoussa.
On a à peu près une quinzaine de programmes dotés donc de financement pour ceux par exemple qui n'ont pas la qualification. On a un complément de qualification à faire et ceux qui sont qualifiés, ben écoutez, on renforce leur capacité en vue justement d'apporter des réponses aux questions qu'ils se posent, c'est-à-dire un stage premier emploi ou un stage de qualification. Tout dépend donc de votre formation et tout dépend de ce que vous demandez en fait comme stage ou apprentissage. En tout cas, on a toutes les formules.
S'agissant de la cherté de la vie, le ministre du Commerce, des PME et de l'Artisanat, Jean-Louis Bion, connaît les prix élevés sur les marchés et se propose de jouer sa partition.
C'est une réalité. Quand les Ivoiriens se plaignent, ils ont raison. C'est un effort soutenu qui va nous amener à faire baisser ces prix-là. Mais quand je parle de baisser les prix, c'est rendre l'économie plus compétitive et faire aussi en sorte que les Ivoiriens aient des emplois plus nombreux, mieux payés pour avoir un pouvoir d'achat plus important. Les loyers sont en train de partir à la hausse. Donc il faut contenir cette hausse-là en limitant le nombre de mois de caution que les propriétaires demandent, en limitant le nombre de mois de loyer qu'on est en droit de demander par avance. Hein. Donc le gouvernement s'apprête à légiférer sur tous ces aspects-là pour éviter qu'il y ait des dérives.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie, Camille Grosdidier avec vous. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a levé mardi un embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts de Côte d'Ivoire. Selon une résolution adoptée à l'unanimité par les 15 pays membres, le Conseil a décidé de mettre fin aux mesures interdisant l'importation par tout État de tout diamant brut provenant de la Côte d'Ivoire, compte tenu des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le Conseil a demandé cependant à la Côte d'Ivoire de le tenir informé de l'état d'avancement de l'exécution de son plan d'action relatif aux diamants, y compris en ce qui concerne la répression de la contrebande, la mise en place du régime douanier et puis la déclaration des recettes financières tirées des diamants. L'embargo sur les ventes de diamants avait été décrété en 2005 parce que ces pierres précieuses alimentaient l'ex-rébellion des forces nouvelles dans le nord du pays. La Côte d'Ivoire demandait depuis des mois à pouvoir recommencer à exporter ces diamants et elle avait reçu en novembre 2013 le feu vert du processus de Kimberley pour que l'ONU lève son embargo. Ce processus de Kimberley, vous le savez, a été créé en 2000. Il s'agit d'un régime international de certification qui rassemble 75 États.
Retrouvez La Voix de l'Amérique sur votre portable. Les dernières informations, nos photos et vidéos, rendez-vous sur fr.voa.mobi. Tapez fr.voa.mobi et suivez la VOA partout dans le monde avec votre mobile.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Au Congo, les opérateurs économiques n'accèdent pas facilement au crédit bancaire pour réaliser leurs projets économiques. Les banques, pourtant en surliquidité, redoutent souvent de perdre de l'argent sur des entreprises peu rassurantes. Trop de risques qu'elles ne veulent pas assumer. Je vous propose de suivre ce reportage. Notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
En 2013, par exemple, les banques congolaises se sont encore endormies sur plus de 700 milliards de francs CFA de surliquidité. Les opérateurs économiques qui recherchent des crédits pour financer leurs projets n'obtiennent rien. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, le président du patronat congolais, est quasiment aux abois.
Les opérateurs économiques, que ce soit grands ou petits ou micros, ont des difficultés pour relance aux activités économiques parce que nous n'avons pas de banques capables de répondre à cela. Aujourd'hui, nous avons des banques commerciales. Les taux ne peuvent pas répondre à quelqu'un qui veut investir dans une activité industrielle qui a rentabilité à moyen et long terme.
Insensibles, les banques ne tiennent pas à perdre un seul sou de leurs bénéfices avec les entreprises congolaises qui n'offrent, semble-t-il, pas assez de garanties. Alexandre Mayamat est le responsable de la Société Générale Congo, filiale d'une banque française.
La singularité de la Société Générale, présente en Afrique depuis 50 ans, c'est qu'elle a su y développer des modes de financement qui permettent à la fois de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises africaines, tout en préservant la qualité de nos risques, parce qu'une banque qui maîtrise ses risques, c'est une banque en qui on a confiance.
Les autorités congolaises estiment que c'est une affaire entre les banques et leurs clients. Toutefois, le gouvernement envisage des mesures d'accompagnement telles que l'énonce ici Gilbert Ondongo, le ministre des Finances.
Au niveau du Conseil des ministres, nous travaillons à déterminer des règles qui rendent le crédit un peu plus facile. Le plus important pour nous à faire, c'est de disposer des ressources longues qui sont adaptées à l'octroi des crédits aux investisseurs.
Pas assez rassurant ni concret pour le président du patronat, Abdoulaye Bopaka.
Le gouvernement jusque-là n'a pas encore fait un effort considérable à ce niveau-là. Donc nous sommes comme un peu les gens abandonnés et nous n'avons pas de fonds. C'est un combat et nous continuons à le battre.
Signalons que le taux de bancarisation au Congo est encore de 5% et seulement 3,4% d'entreprises locales accèdent au crédit bancaire selon la Banque mondiale. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Washington, vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie au micro Camille Grosdidier. Au Tchad, la plupart des habitants, même en zone urbaine, préfèrent acheter des terrains avec les chefs traditionnels et bâtir des habitations. C'est alors que le service des cadastres intervient pour restructurer ces quartiers habités, tracer des rues, laisser des espaces verts, des écoles, des hôpitaux, des commissariats de police, bref. L'opération suscite de vives inquiétudes aujourd'hui dans les quartiers d'Ambata et d'Atrone, dans le 7e arrondissement de la capitale, Tchamena. On écoute notre correspondant sur place, François Djekombe.
Déguerpissement ou expropriation à N'Djamena, un phénomène qui ne finit jamais. Au quartier Atrone et Ambata actuellement, le phénomène prend le nom de restructuration. Si la population qui s'est installée sur ces terrains non viabilisés à elle-même souhaitait cette restructuration pour se situer, l'ampleur qu'elle prend l'inquiète. Des milliers de maisons sont badigeonnées et un délai très court, allant de 10 à 15 jours, est souvent donné aux propriétaires pour évacuer. C'est le cas de Sadio Wami, enseignant de son état, dont la maison se trouverait sur une réserve de l'état.
S'ils peuvent nous laisser un temps afin que nous puissions continuer juste pour finir l'année avec les enfants là, sinon venir casser aussitôt là, alors par exemple moi je suis ici, alors si on vient aujourd'hui, on casse la maison, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être je vais me retrouver à Kundul ou bien à Glendé là-bas et l'école des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont aussi dans des écoles privées et aussi avec l'approche de la saison pluvieuse, ça nous fait vraiment penser beaucoup plus.
Pour échapper à la longue et onéreuse procédure légale d'acquisition de terrain, les citoyens se tournent généralement vers les Boulama, ces chefs de terre qui engagent une procédure expéditive de vente consistant à prendre les dimensions du terrain en comptant des pas et à délivrer une attestation de vente science tenante. Barré a pu acquérir avec le Boulama au quartier Ambata une parcelle qu'il compte exploiter. Mais l'équipe de restructuration qui se rapproche de son terrain lui donne des soucis.
Voilà qu'aujourd'hui, on a investi, on a acheté le terrain avec les Boulama, bien sûr. On dit c'est sauvage. Mais on n'avait pas de moyens pour acheter les terrains bornés et autres. Alors maintenant, on te demande de quitter sans te donner une rémunération, ni on te met dans la rue de la sorte.
La vente des terrains par les Boulama jugée anarchique a été officiellement suspendue par le gouvernement. Mais elle se poursuit sous une forme ou sous une autre. Selon la loi, la terre appartient à l'État. Pour faciliter l'acquisition des terrains, le ministère de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines a mis sur pied le guichet unique pour centraliser et faciliter la procédure. Bruno Ndungaba, un des responsables du guichet unique, explique la procédure à suivre pour obtenir un terrain au Tchad.
La procédure légale est celle qui vient de la CADZU. La CADZU, c'est la commission d'attribution des terrains en zone urbaine qui octroie des terrains aux demandeurs, ceux qui ont préalablement introduit une demande et qui ont été sélectionnés et catégorisés. Après une sélection, un terrain leur est attribué sur un site donné. Après l'attribution, on vous fournit une fiche d'attribution provisoire qui vous permet d'engager la procédure de régularisation de votre terrain.
N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
Le magazine de l'économie de La Voix de l'Amérique vous est présenté par Camille Gros-Didier, ici Washington. Au Burkina Faso, les trois opérateurs de téléphonie ont été sanctionnés pour la mauvaise qualité de leurs services. Ils devront verser à l'État plus de 5 milliards de francs CFA. Zoumana Wonogo nous en dit plus depuis Ouagadougou.
Plus de 5 milliards de francs CFA à payer au trésor public. Telle est la sanction pécuniaire infligée aux trois réseaux de téléphonie du Burkina par l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. On écoute Mathurin Bako, le président de l'ARCEP.
Les sanctions prononcées par le conseil de régulation de 2 milliards 70 162 936 francs CFA contre l'ONATEL. 1 milliard 301 millions 91 521 francs contre Télécel, 2 milliards 490 935 167 francs CFA contre Airtel, soit un total de 5 milliards 862 189 624 francs CFA. Ces pénalités doivent être reversées au Trésor public.
Désolé, votre correspondant est indisponible actuellement. Les usagers de la téléphonie mobile au Burkina sont coutumiers de cette phrase qui ne résume pas à elle seule les énormes difficultés de communication. Suivant Mme Salimata Rwamba, directrice de la régulation à l'ARCEP, sur le long chapelet des problèmes.
Nous avons fait 13 axes routiers que nous avons mesurés pour la couverture. Nous avons également mesuré 27 villes au niveau de tout le Burkina pour le taux de couverture. Alors nous reprochons également un manquement au niveau du taux de coupure des appels. Quand vous appelez et puis en temps, la communication se coupe. Et ce taux de coupure également, nous l'avons mesuré aussi bien sur les axes routiers que dans les 27 localités. Nous avons également mesuré le taux d'envoi des SMS réussis pour les trois opérateurs et nous avons également constaté qu'il y a des manquements à ce niveau par rapport à leurs obligations de cahier de charge. Alors, un autre indicateur, c'est le taux de blocage des appels. Vous essayez d'appeler, on vous dit que votre correspondant n'est pas joignable alors qu'il est bien là, son téléphone est bien allumé.
Comment les consommateurs ont accueilli cette sanction pécuniaire? Voici l'avis de Pierre Nakoulma. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina.
Malgré tout ce que nous avons fait comme dénonciation, il a failli 2 ans à l'autorité de régulation pour arriver à un autre niveau de sanctions pécuniaires qui ne nous rassure pas parce que pour nous, les montants qui leur sont infligés, c'est nous encore les consommateurs qui allons les payer. Parce que la technologie est telle qu'ils savent comment faire pour que la note nous revienne. Nous allons encore trinquer. Je pense qu'ils ont eu 3 mois pour se remettre en norme. En principe, après les 3 mois, l'autorité de régulation a 2 semaines pour leur délivrer les quitus. Nous proposons que dès que les quitus n'ont pas pu être délivrés, que l'autre procédure de sanction s'engage. Je pense que nous devons rester vigilants. Et comme le commun du mortel le dit chez nous, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Ce que nous attendons, c'est voir comment la qualité va être appréciée par les consommateurs.
Chez les syndicalistes de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, la question qui demeure est comment dédommager les victimes que sont les clients de téléphonie. Norbert Wangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, explique.
Pour avoir leur licence, les différents opérateurs ont signé une convention avec l'État et se sont engagés à un certain nombre d'actions, de performances, qui visiblement ne sont pas respectés. C'est du droit de l'État de faire, d'appliquer les textes, notamment les cahiers de charges, en infligeant ces sanctions. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment aussi on désintéresse les victimes. C'est vrai, à part dans les caisses de l'État, c'est pour tout le monde, mais les dommages là sont subis quotidiennement par les consommateurs. Comment est-ce qu'on fait pour qu'eux, ils puissent être désintéressés? Et surtout, quelles mesures on prend pour qu'effectivement, la question soit résolue.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Le service francophone de La Voix de l'Amérique sur satellite. Nos émissions sont désormais disponibles sur Arabsat, 26 degrés Est, fréquence de réception 11 938 GHz. Effectuez une recherche sur tous les canaux pour retrouver vos émissions habituelles, la VOA, avec vous, partout. « Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Azilenya pie, lola zilenya pie. Azilenya pie, kira pa zilenya pie oh.